Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le pape François s'est dit profondément attristé après une tuerie dans une église dimanche au Nigeria. Au moins 21 personnes ont été tuées. Les autorités israéliennes prolongent de 3 mois la détention administrative de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Alerter et contribuer à la protection des enfants sur les deux rives de la Méditerranée, l'une des missions du Mouvement des enfants de la Méditerranée, initiative de l'ex-présidente de la République de Malte, avec notamment l'ex-ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance en Tunisie, Nezia Labidi, qui sera l'une de nos invitées. Le premier tour des élections législatives, dimanche prochain en France. L'invité de Pluriel hier soir était Éric Coquerel, député et candidat de l'ANUPS dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Il explique ce qu'il fera en cas de victoire de la gauche, notamment ce qui concerne le pouvoir d'achat, extrait dans votre journal. La bibliothèque de Radio Orient a reçu hier Mina Namous pour son roman « Amour extérieur nuit » aux éditions d'Alva. Nous l'écouterons. Une attaque meurtrière s'est produite hier dans une église au Nigeria. C'est arrivé dimanche. Les assaillants ont tiré depuis les fenêtres en pleine messe de la Pentecôte. Au moins 21 personnes sont mortes, dont de nombreux enfants. Un massacre à Owo, dans le sud-ouest du Nigeria. Le pape François réagit. Il s'est dit profondément attristé. Le souverain pontife qui assure tous ceux qui sont affectés par cet acte de violence indicible de sa proximité spirituelle. Les magistrats tunisiens ont entamé hier une grève d'une semaine. Ils protestent contre la révocation de 57 de leurs confrères par le président Kais Saied. Le chef de l'État les accuse notamment de corruption. Mouvement à l'appel des principaux syndicats professionnels de magistrats. Les révocations concernent aussi des magistrats soupçonnés d'avoir entravé l'enquête sur les assassinats en 2013 de deux dirigeants de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Debrahmi. Assassinat imputé à des djihadistes. Regard sur le mouvement des enfants de la Méditerranée, une initiative de l'ex-présidente de la République de Malte, Marie-Louise Colero-Preca, avec notamment l'ex-ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance en Tunisie, Nezia Labidi. Entretien sur les missions de ce mouvement méditerranéen avec Nezia Labidi.
Depuis déjà un an et demi à peu près, Son Excellence Madame la Présidente Marie-Louise Preca, présidente de Malte, a lancé l'idée de créer un mouvement pour les enfants en Méditerranée. Toutes les deux, avec d'autres personnes, nous avons travaillé pendant un an et demi à peu près sur le projet. C'était un échange d'idées, de perspectives, de projets. Par la suite, le travail s'est élargi pour inclure d'autres organisations internationales et d'autres personnalités, ce qui a abouti à la création de ce qu'on appelle le mouvement pour les enfants de la Méditerranée. Nous l'avons lancé et nous sommes réellement très heureux de voir que le pourtour de la Méditerranée se réunit pour une cause qui est la cause des enfants, et nous travaillerons pour les enfants et surtout avec les enfants.
Et justement, quelles sont les missions de ce mouvement des enfants de la Méditerranée? Quelles actions vont être entreprises?
Tout d'abord, nous allons, conformément à la Convention des droits de l'enfant, impliquer les enfants dans ce mouvement, parce que c'est les enfants qui vont porter le projet, et eux, ils rêvent pour la Méditerranée, et donc ça sera un grand nombre d'enfants va réfléchir avec nous sur le projet méditerranéen et les actions. Nous sommes conscients aussi qu'il y a beaucoup de migrations illicites et illicites en Méditerranée, et les enfants sont les premières victimes et les femmes aussi. Donc nous allons travailler pour justement pallier à ce mouvement de va-et-vient et surtout de va vers le nord des personnes migrantes. Et puis, la région méditerranéenne connaît aussi une montée considérable des conflits armés. C'est notre souci pour installer ou instaurer une paix, mais une paix durable qui sera incrustée dans les esprits des enfants, et aussi travailler dans les projets de développement. Et nous avons aussi des projets de développement de part et d'autre dans les échanges, soit économiques, soit culturels, culturels aussi, entre les deux rives de la Méditerranée, parce que nous considérons que les deux rives de la Méditerranée, c'est comme une bouche Elle a deux lèvres et on ne peut parler, on ne peut s'exprimer, on ne peut dire ou faire des choses qu'avec les deux lèvres de la Méditerranée. C'est ça qui compte pour nous.
C'est un partenariat entre les deux rives pour aider les enfants. Quels sont les principaux dangers auxquels les enfants font face aujourd'hui?
Tout d'abord, les violences, toute forme de violence, l'enrôlement des enfants dans les conflits armés, l'utilisation des enfants, les grossesses forcées pour les filles. Également la traite des personnes entre les deux rives de la Méditerranée, ce sont des violences extrêmement graves pour les enfants et également pour les personnes adultes. Ce sont les urgences et vous savez quand les enfants, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, même moins, il y a un paquebot qui parti de la rive sud vers le nord, le paquebot était plein de jeunes femmes et d'enfants. Et des fois, c'est des enfants non accompagnés de leurs parents et qui meurent très 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 facilement. Donc pour nous, ça c'est un grand danger.
Il s'agit donc notamment de contribuer à aider davantage les mineurs isolés.
C'est surtout pour prévenir. Notre travail, c'est d'abord prévenir toutes ces formes de violence à l'encontre des enfants, leur donner la dignité nécessaire et importante parce que les conventions internationales et les chartes internationales parlent en premier lieu de dignité humaine, garantir les droits humains basés sur la dignité humaine parce que nous naissons tous égaux, nous devons être tous égaux et nous travaillerons, je l'espère, avec beaucoup d'amour et de passion et également avec beaucoup de détermination pour que les enfants dans notre pourtour méditerranéen aient une vie digne, une vie humaine qui leur donne l'espoir de vivre. Parce qu'aujourd'hui, les horizons sont presque un peu fermés et donc pourquoi ne pas donner aux enfants cette possibilité d'avoir une vie digne, une vie paisible, une vie où il fera bon vivre des deux côtés de la Méditerranée.
Vous avez été ministre, notamment en charge de l'enfance en Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous faire part des principales problématiques liées à cela dans le pays?
Depuis que j'ai quitté le ministère en 2020, parce que notre mission était terminée, il y a eu un nouveau gouvernement, et donc j'ai travaillé surtout et en particulier pour les enfants, avec les enfants, parce qu'il y a un défi réel qui est l'abandon scolaire, qui est quand même très important, la traite des personnes, et la migration clandestine des enfants. Et surtout, quand on voit des bébés, des cadavres de bébés sur les plages, ça nous fait... je vous parle maintenant et j'ai la chair de poule. Quand on voit ces images d'enfants, pas seulement des Tunisiens, mais des enfants subsahariens qui viennent, qui traversent à travers la Tunisie, la Méditerranée pour trouver, peut-être penser que l'herbe est plus verte ailleurs, on se dit ce n'est pas possible. On ne peut pas rester les bras croisés et on ne peut pas tolérer de pareils malheurs.
D'où cette coordination internationale, parce que c'est aussi cela, ce mouvement des enfants de la Méditerranée.
Oui, c'est bien sûr. J'étais impliquée, comme je vous l'ai dit au départ, et je remercie Madame la Présidente, Madame Marie-Louise Tricca, ancienne présidente de la République de Malte, qui travaille énormément pour les enfants et pour la paix, de me donner cette chance de collaborer avec elle et collaborer avec tous les pays de la Méditerranée pour justement contribuer. Je ne dirais pas qu'on va faire... On n'a pas de bâton magique pour contribuer, peu soit-il, pour donner une petite chance aux enfants de la Méditerranée, parce que c'est le futur. Eux, ils portent l'avenir en eux, et donc on doit leur donner un minimum d'espoir, un minimum de confiance, un minimum de paix pour que le pourtour méditerranéen puisse être un... un espace de paix, de sérénité, d'échange, de respect mutuel des deux rives de la Méditerranée.
L'ex-ministre tunisienne de la famille et de l'enfance en Tunisie, Nezia El Abidi, cofondatrice du mouvement des enfants de la Méditerranée. Saïd Bouteflika est condamné à 8 ans de prison en Algérie, condamnation pour des faits de corruption. Le frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika est déjà détenu pour des poursuites dans d'autres affaires. Son co-accusé, l'ancien patron des patrons Ali Haddad, également condamné dans plusieurs affaires, a lui écopé de 4 ans de prison ferme. La détention administrative du franco-palestinien Salah Hamouri en Israël est reconduite pour 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 5 septembre prochain. Il a été incarcéré le 7 mars dernier. La détention administrative est une mesure controversée qui permet à la justice militaire israélienne d'incarcérer des suspects sans accusation formelle. Ce sera dimanche prochain le premier tour des élections législatives en France. L'invité de Pluriel hier soir était Éric Coquerel, député et candidat de la NUPES dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis. Il a expliqué ce qu'il fera en cas de victoire de la gauche, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat, Éric Coquerel.
Eh bien, que ce soit à travers des décrets, parce que certaines choses peuvent se passer par décret ou une loi d'urgence sociale, ce que nous comptons mettre en place, c'est le SMIC à 1 500 € net, c'est la retraite à 60 ans, c'est des revenus, des minimums sociaux portés au niveau du seuil de pauvreté, soit à 1 063 €, c'est le blocage des prix qui nous semble absolument nécessaire. Vous avez vu comme moi que l'inflation est en train d'exploser à plus de 5%, donc il faut bloquer les prix des produits de première nécessité, de l'énergie, tout un ensemble de choses qui permettraient à la fois de doper la consommation populaire et également de partager les richesses. Ça veut dire qu'à côté de ça, il faudrait un projet de loi de finances rectificative, c'est-à-dire qui rectifie les projets de loi de finances votés fin 2021, par exemple pour à nouveau rétablir l'ISF, rétablir un impôt sur les héritages des gens les plus fortunés, de façon à ce qu'on ait à la fois des recettes supérieures pour l'État, mais à la fois une plus grande égalité en termes fiscaux.
Vous, à titre personnel, si vous êtes réélu député et membre d'une nouvelle majorité, quels seront les sujets sur lesquels vous vous investirez en priorité ?
Ben, y a deux solutions. Soit on est majoritaire, et dans ces cas-là, on sera appelé à gouverner le pays. Donc je ne sais pas si je serai appelé au gouvernement. Je pense que si c'est le cas, ça sera très certainement sur ce que j'ai fait pendant 5 ans. J'ai été plus particulièrement lié aux questions de finances et d'économie. Et sinon, si on n'est pas majoritaire mais qu'on a la plus forte opposition, vous savez que traditionnellement la présidence de la commission des finances revient à l'opposition, je pourrais être appelé par exemple à jouer ce rôle, c'est-à-dire travailler sur toutes les questions de fiscalité, d'économie sociale. À côté de ça, il y a des sujets qui me tiennent au cœur, que j'avais commencé à développer dans ce mandat. Il y a notamment la lutte contre le trafic de drogue, qui passe, à mon avis, par une régularisation, légalisation du commerce du cannabis, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement sous contrôle de l'État, mais aussi à un retour à la police de proximité, davantage d'officiers de police judiciaire. Donc il y a un ensemble de mesures qui me semblent absolument fondamentales, en plus de la question du logement dont j'ai parlé tout à l'heure.
Éric Coquerel, député et candidat de la NUPES dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, il était l'invité de Pluriel hier soir, émission disponible sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. La grève dans les hôpitaux aujourd'hui, mouvement à l'appel de 9 syndicats, dont la CGT. Ils dénoncent un hôpital désespérément maltraité et un grave manque de soignants. Des rassemblements ont lieu dans au moins 50 villes en France. Cette journée de mobilisation intervient alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le 31 mai le lancement d'une mission d'urgence d'un mois pour pouvoir, dès cet été, apporter, selon l'exécutif, des réponses très fortes pour consolider les urgences dans cette période. La bibliothèque de Radio Orient a reçu dimanche Mina Namous pour son roman « Amour extérieur nuit » aux éditions d'Alva. L'héroïne vit à Alger, une ville qu'elle n'a pas envie de quitter. Le roman évoque aussi la pression sociale sur les femmes en âge de se marier. Extrait de cette émission.
Elle aime beaucoup sa ville, elle n'a aucune intention de la quitter. C'est une question que lui pose parfois Karim, si elle a envie de quitter Alger. D'ailleurs, il est curieux de savoir pourquoi elle ne part pas, pourquoi elle n'a même pas envie de partir, parce qu'il s'attend à ce que tout le monde ait envie de quitter l'Algérie. Et elle, non, elle a un attachement viscéral à la ville, et même si elle en subit les défauts, comme toute ville, elle n'a aucune intention de partir.
Et c'est une Algérienne qui pourrait partir puisqu'elle a la possibilité d'avoir des visas facilement pour les pays de l'Union européenne. Elle a toujours un visa sur elle, d'ailleurs.
Et c'est ça qui étonne Karim, c'est se dire pourquoi elle ne part pas. Et non, elle est extrêmement attachée à Alger malgré tout.
Alors Karim lui demande si elle aime le danger. Qu'est-ce qu'il a en tête en posant cette question, Mina Namous?
Alors je crois que lui, quand il lui pose la question, il a l'idée d'un danger gentil. Un danger un peu amoureux qui se passerait dans les rues, comme quand on embrasse quelqu'un dans la rue, c'est un peu dangereux, mais pas trop. Alors que elle, elle lui répond, juste, elle a envie de lui répondre en tout cas que personne n'aime le danger en Algérie parce que elle a vécu aussi les années de terrorisme et donc le danger lui évoque ça. Le danger lui évoque vraiment la mort qui n'est pas juste un risque lointain, mais qui est une réalité ou en tout cas qui a été une réalité. Donc pour elle, c'est pas un jeu, c'est pas une fantaisie, mais c'est quelque chose qu'elle craint véritablement.
C'est aussi un roman sur les secrets, Mina Namous. Il y a notamment la description d'un avortement, une femme qui va avorter, et puis c'est finalement un secret de famille partagé notamment par les femmes.
Oui. Oui, parce que la place du secret est très importante en Algérie, mais je pense dans toutes les sociétés méditerranéennes. Où quand on vit des vies un peu cachées, bah forcément il y a des secrets qui sont souvent des secrets de polichinelle. Et là, dans ce contexte-là, c'est un secret de femme, comme souvent dans ce genre d'histoire.
Alors, autre passage que je vais citer. Avec Karim, on partage nos histoires et nos rires. Il a très envie d'aller dans cette ville de l'Est avec moi et de voir la maison. Il me propose d'y aller ensemble cet été. L'idée m'a paru absurde, mais je me suis plu à imaginer que ça pouvait être possible. Alors là aussi, on est dans deux visions de l'Algérie, c'est-à-dire Karim qui pense qu'il peut simplement aller dans cette ville de l'Est algérien qui n'est jamais nommée, alors que Sarah, elle sait que tout le monde la connaît dans cette ville. Elle ne peut pas venir avec un homme qui est marié.
C'est, oui, c'est justement une illustration du fait qu'elle elle protège un peu sa vision d'une certaine Algérie. C'est que voilà, lui s'imagine en tant qu'homme, et puis aussi parce qu'il n'habite pas là, ce ne serait pas très grave, alors qu'elle, elle mesure à quel point ça serait extrêmement dangereux, et même impossible d'ailleurs, elle le dit, c'est, l'idée est totalement absurde.
Mina Namous, invitée de la bibliothèque de Radio Orient pour son roman Amour extérieur nuit aux éditions d'Alva, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, un seul match est programmé aujourd'hui, l'opposera dans la soirée la Guinée équatoriale à la Libye. Coup d'envoi à 21h, heure française, fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient. Il est très précisément 12h18.